Voici les protéines animales. Les protéines animales pour tout savoir sur les techniques et les méthodes adéquates d'élevage au Cameroun et ailleurs. Les protéines animales pour la transformation et la conservation des ressources halieutiques. Les protéines animales sur la CRTV Poste National.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre programme Protéines animales. Ce soir, nous aurons les échos de la fête de la Tabaski dans la région du Centre avec ce communiqué signé par le gouverneur de la région du Centre. Pour cette édition et en posture d'invité, nous aurons le docteur Abel Ouad. Il est le directeur du laboratoire national vétérinaire annexe de Yaoundé. Il nous parlera des dernières avancées dans cette structure en zone méridionale camerounaise. Nous ferons aussi un détour dans la région du littoral pour parler de l'aquaculture dans cette région. Technique Yannick Ayarma, réalisation Salabamela. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Il y a quelques jours, le gouverneur de la région du Centre signait un communiqué rappelant les règles d'abattage, de transport et de commercialisation de la viande à Yaoundé et ses environs. Le docteur Georges Mvin Sanding est le délégué régional du Minépia pour le Centre. Il nous donne des éclairages sur ce communiqué.
Vous savez que Yaoundé, c'est la cité capitale. Et nous sommes, en tant que cité capitale, c'est la vitrine du pays tout entier. D'où ce communiqué du gouverneur pour remettre un peu d'ordre dans le secteur viande et rendre notre cité capitale encore plus viable et encore plus jolie.
Est-ce qu'on peut rentrer dans la quintessence même de ce communiqué ? Il parle de quoi exactement ?
Le communiqué de monsieur le gouverneur de la région du Centre va au-delà seulement de l'abattage, mais aussi de la vente et également du transport des animaux abattus et vivants dans la ville de Yaoundé. Il s'agit là de rappeler aux uns et aux autres les dispositions de la loi qui dit que les animaux seront vendus seulement dans les marchés à bétail qui sont créés par monsieur le gouverneur. Ils seront abattus et seulement dans les endroits qui sont agréés pour être abattus, c'est-à-dire les abattoirs sous départ, l'abattoir sous départ de Yaoundé, et aussi les abattoirs mobiles de Mvogada et celui du marché 8e. Donc, le troisième point est celui du transport. Et celui dans le cadre du transport, c'est seulement dans les véhicules agréés à cet effet que les animaux, que ce soit des animaux vivants ou des animaux abattus, doivent être transportés. Ce sont des rappels aux populations pour que nul n'en ignore. Et le dernier point dans ce communiqué, c'est de dire et de rappeler aux uns et aux autres que ceux qui ne se soumettront pas à la loi se feront purement et simplement poursuivis par celle-ci dans le cadre de la saisie de leurs biens ou de la destruction de certains qui ne seront pas faits dans les normes.
Ce communiqué intervient à la veille de la célébration de la Tabaski, la fête du mouton. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est le principal prétexte ou alors est-ce qu'il va au-delà ?
Il va au-delà. Ce communiqué est une disposition qui rappelle non seulement au-delà, parce qu'on ne mange pas que de la viande pendant la Tabaski, on mange de la viande tous les jours dans la ville de Yaoundé. Donc ce communiqué est un rappel pour tous et ça va au-delà de la fête de la Tabaski. Et la fête de la Tabaski, c'est une fête du sacrifice. Il n'est pas question que une fête religieuse soit le sous-entendu du désordre humain, non. Le communiqué est sorti juste avant la Tabaski, c'est tant mieux, mais c'est une disposition générale qui est appliquée en tout temps et en tout lieu dans la région du Centre.
Dernière question, le communiqué est passé, on peut s'attendre à quoi ? On sait que nos habitudes ont la peau dure, parfois même la carapace. Quelle sera la prochaine étape ?
Oh, le communiqué est passé, il a été lu, il est diffusé, il est transmis dans tous les lieux de culte, dans les lieux publics, pour rappeler les dispositions de la loi aux uns et aux autres. Ça, c'est la sensibilisation. Maintenant, il est à nous, aux agents des services vétérinaires, de passer à la répression. Les uns et les autres qui ne voudront pas se conformer vont être purement et simplement réprimandés par les services vétérinaires et les forces de maintien de l'ordre, selon les dispositions prévues par la loi.
Monsieur le délégué, je vous remercie.
Je vous remercie, Monsieur Perrin.
Depuis ce 20 août 2018, le Laboratoire national vétérinaire bénéficie d'un logiciel de gestion des données. C'est un système de contrôle des données pathogènes qui est donc désormais installé au LANAVET. Je vous propose à présent d'écouter deux membres de la structure américaine donatrice. Il s'agit de la DETRA, la Defense Threat Reduction Agency. Je vous propose de les écouter.
Okay, good afternoon. I'm Prabha Naidu. I'm from Black and Veatch.
Nous sommes Black and Veatch. Et nous sommes spécifiquement ici à la navette parce que effectivement ils ont des bactéries et des virus qu'il faut combattre, qu'il faut manager. Et justement, le programme PAX permet de le faire beaucoup plus efficacement.
À présent, je vous suggère de suivre cet entretien réalisé avec le docteur Abel Wade, le directeur du LANAVET, annexe de Yaoundé.
Docteur Wade, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du laboratoire national vétérinaire annexe de Yaoundé et vous venez de bénéficier d'un logiciel offert par une structure américaine. De quoi s'agit-il?
Il s'agit d'un logiciel pour la gestion des données du laboratoire. C'est-à-dire les échantillons que nous recevons, avec toutes les informations épidémiologiques, les techniques de laboratoire qui seront utilisées pour poser le diagnostic et les résultats. Donc c'est toute la chaîne. Et ça nous permettra de connaître exactement à tout moment combien d'échantillons nous avons reçus, combien ont été analysés et combien sont positifs pour une pathologie donnée et facile à exploiter pour faire des rapports et rendre compte à la hiérarchie ou à qui de droit.
Est-ce que ce logiciel apporte quelque chose de plus par rapport à ce qui se faisait déjà ici au laboratoire?
Ah oui, mais bien sûr, c'est la première fois qu'on a ce logiciel. On utilisait d'autres systèmes qui n'étaient pas aussi performants comme ce logiciel. Et vous savez, avec l'expansion, l'évolution, la mondialisation, même au niveau des germes et des maladies, il y a également de la mondialisation. Vous savez, avant, on n'entendait pas parler de la grippe aviaire en Afrique. Depuis 2006, nous avons été frappés. Nous avons encore eu deux cas, ces menaces en 2016. Voilà Ebola qui continue à faire son parchemin dans d'autres parties de l'Afrique avec les virus Lassa. Donc, il y a également de la mondialisation au niveau des germes et des maladies. Alors, ce qui fait donc que... dans les jours à venir, pour qu'un laboratoire soit accepté, pour que les résultats d'un laboratoire soient acceptés, il faudrait que ces laboratoires rythment avec les normes internationales. Alors, on ne fait plus des rapports à partir des cahiers ou bien des fiches qu'on ramasse sur le terrain de gauche à droite. Il faut un logiciel, n'est-ce pas, où on enregistre systématiquement chaque fois qu'on reçoit un échantillon. Chaque fois que c'est analysé et chaque fois qu'il y a un résultat, et de telle sorte que quand on sort le rapport, on dit que le rapport a été extrait d'un logiciel X officiellement reconnu par l'OIE, par l'OMS et par les normes internationales. Donc, dans les jours à venir, tout laboratoire qui ne sera pas rythmé à ce genre de mesures et de normes internationales ne sera pas reconnu officiellement.
Et on observe bien qu'il y a une séance de formation qui se déroule pour l'implémentation, la mise en œuvre de ces logiciels-là.
Oui, il y a une formation qui commence aujourd'hui et qui va tenir sur 2 semaines. Et vous voyez que nous sommes tous mobilisés pour maîtriser ce logiciel-là. Et non seulement ils ont amené ce logiciel, il y a également des ordinateurs, des desktops, des laptops pour nous permettre d'utiliser ces logiciels. Et même des imprimantes, parce que désormais, l'identification des échantillons sera faite de manière automatique. Il ne sera pas fait de manière manuelle, il sera fait de manière automatique, comme ça se passe dans les grands labos de référence qu'on voit en Europe, aux États-Unis. Et je crois que nous sommes sur le couloir de l'émergence. Et je tiens à vous rappeler que la position de la navette dans la sous-région est exceptionnellement appréciée. Et avec ces facilités, ces logiciels et tout ce que nous mettons en place comme projet, nous comptons vraiment porter très haut, n'est-ce pas, la sous-région au niveau des normes internationales.
Faisons un tour dans la région du littoral pour parler de la situation de l'aquaculture dans cette région. Et pour en parler, suivons le guide, le docteur Guy Irénée Mimban. Il est le délégué régional du Minépia pour le littoral.
Il est vrai que par le passé, l'aquaculture n'était pas très très développée, il faut savoir l'avouer. Mais de plus en plus, nous sommes en train de nous rendre compte qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont mises en place sur le terrain et qui implique beaucoup de jeunes qui s'installent en créant des fermes aquacoles où ils élèvent beaucoup de clarias avec des résultats qui sont tout à fait intéressants. Ce qui montre qu'effectivement, c'est un secteur qui va certainement se développer avec le temps. Nous avons actuellement près de 550 aquaculteurs qui sont même déjà regroupés autour d'une coopérative qui mène leurs activités dans tous les maillons de l'aquaculture, à partir de la production d'alevin, mais également la production d'aliments locaux et également dans le grossissement du poisson. Dernièrement, il y a un groupe d'opérateurs qui également ont commencé à tester l'élevage en cage sur le fleuve Dibamba, mais également sur le fleuve Mungo. Et là, ils élèvent le tilapia. Nous pensons que ce sont des initiatives qui, sur le long terme, vont permettre à ce que la région littorale ne soit pas seulement une région où on pêche, mais beaucoup plus une région où on produit du poisson pour les consommateurs.
Toujours dans le littoral, et cette fois, intéressons-nous au projet du développement de l'élevage, le Prodel, dans sa zone 3. Nous étions rencontrés le coordonnateur régional, le docteur Anthony Yessi. Il nous livre ici l'état de mise en œuvre de ce projet dans le littoral, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest. Docteur Yessi, au micro de Protéines Animales.
À ce jour, nous avons plus de 25 plans d'affaires qui sont en train d'être formulés dans la région. En mars, nous avons formé des points focaux dans l'identification, la caractérisation des OP, et c'est les résultats de cette formation qui ont donné ce travail de caractérisation où on est jusqu'à 163 fiches déjà caractérisées et on puise dans ces 163 pour faire le diagnostic approfondi et ceux qui répondent favorablement et on les met le canevas de formulation des plans d'affaires. Nous n'avons pas croisé les bras pour attendre le recrutement des prestataires locaux de services qui devaient normalement faire ce travail. Nous avons procédé à l'unité de coordination pour amorcer ce travail et en attendant le recrutement de ces spécialistes, de ces prestataires, quand ils seront là, on va déjà mettre à leur disposition des plans d'affaires déjà formulés au niveau des OP et qui peuvent justement peaufiner pour que mois d'août, on organise les premiers comités de présélection pour sélectionner les plans d'affaires à financer.
Cette édition de Protéines Animales s'achève avec des remerciements au service technique de la CRTV. Protéines Animales est une émission supervisée par Monsieur le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Études Animales, une coordination du chef de la cellule de communication. L'émission pour ce soir est réalisée par Salah Bamela. Je suis Perrin Melchionzier, merci et à bientôt sur les ondes.
C'était les Protéines Animales, une coproduction CRTV Minépia.